podcast.com. Essaye ça.
Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'était mon premier mash-up. C'est pas le meilleur. Hein. C'est pas celui qui fit le plus, mais j'avais le goût de le mettre au moins une fois. C'est, je pense que je l'ai quasiment jamais fait jouer. Mais là, vu qu'on a appris récemment que Céline Dion avait un clone, puis que c'était pas elle qui était allée à soirée des prix, je sais plus quoi, dont je me sac pas mal. Ben je me suis dit, OK, c'est la fois, l'unique fois, sûrement la dernière, fait que vous aurez pu endurer ça. Hey, passons aux nouvelles. On va commencer avec un article de l'ami Steve Sauvé, excellent journaliste. C'est paru dans La Voix régionale. Geneviève Laplante, qui s'est faite... qui a subi les conséquences de ses actes au palais de justice entre les mains du juge Bertrand Saint-Arnaud. Eh bien, Geneviève, ce qu'elle faisait... elle faisait des faux passeports vaccinaux parce qu'elle travaillait, elle travaillait au CI3S Montérégie Ouest. Puis, grâce à une enquête de la commission, du commissaire à la lutte contre la corruption, ils se sont rendus compte que la petite madame avait fait ça. Donc, la petite infirmière conspi a, en 2022, fabriqué de fausses preuves vaccinales. Puis, elle va devoir verser une amende de 1 500 $ assortie de 200 heures de travaux communautaires. Et puis, évidemment, elle perd son emploi, ce qui est une très bonne chose parce qu'une infirmière doit être digne de... En fait, quiconque travaille dans le système de la santé doit être digne de confiance parce qu'ils sont... ils ont entre les mains des informations sensibles et puis... dans son cas, elle délivrait des passeports vaccinaux, des preuves vaccinales à des gens non vaccinés. Colin, ça contrevient un petit peu, je pense, à l'éthique. Donc, on remercie Steve Sauvé, excellent job. Vous pouvez lire ça dans La Voix régionale et le suivre. Bye-bye Geneviève. J'espère qu'on te croisera plus jamais dans un hôpital puis que tu n'auras plus jamais une job assez importante pour pouvoir agir de cette façon-là. C'est fou, hein, comment les... Comment un mode de pensée, quelqu'un qui s'est radicalisé sur Internet, peut transporter ça dans la vie réelle puis se mettre dans la vraie merde. Tu sais, c'est pas juste des commentaires sur Facebook puis des posts puis moi je pense que. Elle a vraiment concrètement, tu sais, posé des gestes illégaux parce qu'elle a été convaincue par des leaders conspirationnistes qu'elle agissait de la bonne façon. Parce que c'est ça le pire, là. Elle s'est pas dit « t'es mes maudits ». Non, non, elle s'est dit « c'est une injustice épouvantable ce qui se passe, puis moi, ben, je vais faire ma part pour remettre les pendules à... » Comme bien des gens qui sont endoctrinés, soit dans une religion, une idéologie politique ou n'importe quoi, conspirationnisme, ils sont souvent convaincus d'agir de la bonne façon en posant des gestes comme ceux-là. Puis à un moment donné, parfois, ils sont obligés de revenir dans la réalité ou ils sont confrontés à la réalité, comme ce qu'a vécu Geneviève Laplante, 42 ans, au palais de justice de Valleyfield. Fait que c'est ça. Je récapitule. Amende 1 500 $, 200 heures de travaux communautaires, probation de 2 ans et elle perd sa job. Probablement son droit d'exercer. Je sais pas si elle est va encore faire partie de l'ordre, mais en tout cas, j'espère que non. Parce que manifestement, elle n'est pas digne de confiance. Tiens, restons dans le judiciaire conspi. J'ai-tu d'inventer un terme? Aïe, aïe, c'est pas drôle. C'est qu'on soit rendu là, en tout cas. Je vais le consacrer. OK, judiciaire conspi. Inscrivez ça quelque part. Il y a un recours collectif de 300 millions qui a été déposé contre les manifestants, les donateurs, ceux qui ont participé, organisé le convoi des camionneurs de la Barté à Ottawa, qui a paralysé Ottawa pendant plusieurs semaines. C'était réellement une occupation de la ville. Les défendeurs qui sont visés pas mal les organisateurs du convoi qu'on connaît, c'est-à-dire Tamara Lish et Chris Barbar. OK, mauvaise foi. Tamara Lish et Chris Barber. J'ai goût de dire Barbar. Ah, parce que quand on l'écoute parler, c'est pas mal ça. Les avocats de ces deux énergumènes-là essayaient d'empêcher le recours collectif de prendre forme. Cependant, ils n'ont pas réussi et un juge a rejeté la demande des avocats de faire annuler l'action en justice. Donc, ce recours collectif-là va aller de l'avant. En fait, c'est intéressant. Ça va être intéressant à suivre parce que ça oppose le droit des individus à utiliser leur propriété, la voie publique, aller travailler, ouvrir leur commerce, et le droit des manifestants de faire entendre leurs revendications et de manifester. Parce qu'on a le droit de manifester. Mais faut pas dépasser les limites, puis... c'est ça. Le convoi des camionneurs n'a pas seulement dépassé les limites. Ils ont pas mal pissé dessus, puis... Faut qu'il y ait des conséquences, je crois. J'espère qu'il y en aura au terme de ce recours collectif-là, puisqu'il va avoir lieu. Je sais pas exactement quand est-ce que ça va se passer, mais ça a été accepté par le juge McLeod. C'est ça, il a annulé la requête, là, parce que c'est ça. Du côté de Lish et Barber, on essayait de bloquer ce recours collectif-là, mais c'était un gros recours collectif, là. Parce que, on dit que les preuves sont suffisantes selon lesquelles les gens ont subi des préjudices, des quantités de bruit extrêmes à toute heure du jour et de la nuit, on s'en souvient, des klaxons, des vapeurs, des raves, de l'odeur de gaz partout. Mais c'est pas juste ça. Il y a le blocage des rues. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à vaquer à leurs occupations, soit aller travailler, aller faire les commissions, parce qu'ils se heurtaient à une gang de manifestants dont une bonne partie était assez enragée, merci. D'ailleurs, on le souligne en parlant d'intimidation. Dans le recours collectif, c'est probablement, tu sais, en tout cas, c'est un des aspects, je pense, les pires là-dedans, là, parce que empêcher les gens de vaquer à leurs occupations, les menacer, puis juste avoir une attitude agressive qui fait que ça inspire la peur chez des résidents, dont des personnes vulnérables, des gens âgés, des gens malades, des gens à mobilité réduite, des enfants qui ont dû tous subir ça pendant pas une journée ou deux. S'ils avaient fait ça une journée ou deux, une fin de semaine, on serait pas là. Non, ils ont paralysé ça pendant des semaines en se nourrissant de l'illusion que à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Ils vont les enlever les menus sanitaires. Les mesures nazitaires. Ben non. On n'est pas au Moyen-Âge, là. Tu peux pas faire un siège autour de d'un château ou d'un parlement. Ils ont profité de leur droit de manifester. On les a entendus. Après 3-4 jours, on savait pourquoi ils étaient là. On savait quelles étaient leurs revendications. On savait aussi que les revendications étaient ridicules, là, que de mettre Trudeau en prison ou de le pendre. Là. On savait aussi qu'ils étaient, en grande partie. C'était pas mal 100% de conspirationnisme, mais il y avait des nazis un petit peu au travers de l'extrême droite. OK, c'était pas tous des nazis. Mais c'était pas dur d'en trouver si t'en cherchais. Hein, t'sais, on a fait une allusion à ça la semaine passée. Quand je parlais des sports de combat, t'sais, ouais, t'sais, c'est pas tous des criminels, mais si t'en cherches, tu chercheras pas longtemps dans ce milieu-là. Je vais me faire péter la gueule. Donc, ça va aller de l'avant, ce recours collectif-là. C'est 300 millions qui est en jeu. Je sais pas exactement, tu sais. Évidemment, c'est contre les organisateurs, surtout Tamara Lish et Chris Barbar. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cet argent-là, pas mal certains. Ils ont juste à faire une levée de fonds, puis Probablement que, comme la dernière fois, ils vont ramasser plein de cash qui vient des États-Unis, de l'extrême droite américaine, qui essaye de faire, d'essayer de contaminer la société canadienne dans leur mentalité. Fait que, ben, c'est ça. Comment sais-tu à ramasser des fonds? On sait jamais. puis si le recours est pas, ne gagne pas, ben, vous expliquerez ça à vos donateurs. Ben, en tout cas, je suis content de voir qu'il y a encore au moins un autre recours qui existe pour obtenir justice pour les gens d'Ottawa qui ont subi ça, là. Fait que, on va suivre ça de très près, vous pouvez être certain. Ah, où c'est que je m'en vais? OK, je vais faire... tiens, on va commencer... Sondage. Encore trop de sujets pour le temps que j'ai, évidemment. Mais bon, il y a un sondage qui est sorti en politique provinciale qui nous apprend que le Parti québécois continue sur sa lancée vers l'ascension, vers le sommet des intentions de vote. En fait, ils sont au sommet des intentions de vote. 32% d'intentions de vote pour le Parti québécois qui conforte son avance sur la CAQ. Qui commence à vieillir, hein? Le pouvoir, ça use. Puis moi-même, j'aime pas ça voir un parti au pouvoir trop longtemps. On se rappelle des années libérales. Mais là, ça reviendra pas tout de suite, les années libérales, quand même que Denis Coderre prendrait la tête du parti et relèverait le parti de ses cendres. Ça va être un travail de longue haleine. Je suis pas certain que ça va non plus mener au pouvoir, mais... On sait jamais. Regardez, on enterrait le Parti québécois il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, avec le nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, Colin, il est en train de dynamiser ce parti-là. Et il est en train de réussir à séduire, je pense, une bonne partie de jeunes électeurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On dit le PQ qui est un... Ça, c'est Jean-Marc Léger, le fameux sondeur qui dit ça. Le PQ qui était un parti plus âgé et dépassé, que les gens désertaient aux dernières élections en 2022, maintenant est en train de changer. OK, la prochaine phrase est bizarre, là. C'est devenu le parti des francophones. As-tu déjà été le parti des anglophones? Tu sais, à part par accident, je pense pas qu'il y ait un anglophone qui ait voté pour le Parti québécois, là, tu sais. Un accident ou de quelques rares exceptions, là. C'est vrai, j'en connais un anglophone qui était nationaliste, souverainiste, péquiste, toute la patate. Je peux même vous le nommer parce que c'est quelqu'un de relativement connu ou qui a été connu à une certaine époque. Il s'appelle William Clanett. Puis, comment il a été connu? Ben, rappelez-vous, pour les plus vieux, quand Jean Chrétien a fait sa fameuse Shawinigan Handshake, c'est-à-dire que lors de la cérémonie de commémoration, de célébration d'un anniversaire de l'unifolié, du drapeau canadien, il y avait des manifestants qui s'étaient rendus à Ottawa pour chahuter Sheila Copps et Jean Chrétien. Je pense que c'était le projet de loi C-111, un affaire de main. C'était un projet de loi qui réformait et pénalisait les gens qui bénéficient de l'assurance chômage. T'sais, pas le BS, l'assurance chômage. L'affaire que tu payes pendant que tu travailles. Ce projet de loi-là venait s'attaquer aux bénéficiaires de l'assurance chômage. Fait qu'il y avait une manifestation qui avait été organisée. Puis, Jean Chrétien, il a pas aimé ça qu'on fasse du bruit pendant qu'il essayait de saluer son beau drapeau canadien. Puis, il s'est tanné, puis il a fait fi de ses gardes du corps, puis il est parti, plutôt que de quitter la scène par derrière ou par les côtés, par les coulisses, côté jardin, côté cour, il est allé dans la foule, direct ses manifestants. Il a pogné le plus famélique, le plus petit d'entre eux pour le brosser de même par la face. Il l'a pas étranglé. Il l'a pris par la mâchoire. D'ailleurs, il a cassé une couronne parce que Jean Chrétien, c'est une pièce d'homme. Hein? C'est 6 pieds quelques, puis c'est quelqu'un d'assez solide. Puis quand il te pogne par la tête, tu le sens. Puis le gars qui a pris par la tête, c'était William Clanett, Bill Clanett. dont les images ont fait le tour du monde. Pourquoi je sais tout ça, puis que de mémoire, ben c'est mon père qui a organisé cette manifestation-là, puis je le connais. Je l'ai rencontré, Bill Clanett, puis... Fait que, ouais, c'est pour ça que je connais autant de détails. Puis il y a d'ailleurs des images qu'on n'a pas vues, pas beaucoup, pas longtemps. Il y a des, je pense que TVA les avait déjà présentées dans le temps, mais après ça, on les a plus revues. Mais après avoir empoigné Bill Clanett, Jean Chrétien s'était dirigé sur... un gars qui s'appelle Gaétan Ménard, qui tenait un mégaphone, puis il a arraché le mégaphone dans les mains, puis d'autres dans les mains, puis il l'a sacré à temps. Une belle coche, hein, tu sais, un politicien avec du chien, là, du pitbull. Je suis pas en train de faire l'éloge de Jean Chrétien, loin de là. Mais il s'était ridiculisé à la face du monde entier cette fois-là. Ça avait fait le tour du monde. Un premier ministre, un dirigeant d'un pays civilisé qui se garoche d'une crowd, qui fait du crowd surfing pour atteindre un manifestant puis le malmener, c'est spécial en maudit. Fait que c'est, ouais, ça avait fait le tour du monde. Je pense que j'ai encore un t-shirt qui immortalisait cette affaire-là. c'était assez comique. Aïe, aïe. OK. Donc, revenons à notre sondage. Hein. Je me suis un petit peu... j'ai un petit peu dérapé avec mon histoire. J'espère que ça intéressait un petit peu pareil. Ouais. Shemulian Handshake, une bonne bière. Oui, c'est vrai, trou du diable. Puis oui, c'est vrai. Ils ont fait une bière avec ça. C'est excellent. Ah, mais écoutez, ça fait partie de notre folklore et de notre histoire politique. Ça va toujours exister, cet événement-là. Il y aura toujours quelqu'un pour nous le rappeler. Si c'est pas moi, ça va être un autre, puis on va voir des images pendant longtemps. Donc, dans les... quand on regarde le sondage, bon, Québec, une chose à la fois. Bon, le PQ qui a gagné ses 9 points de pourcentage depuis la victoire dans Jean Talon. La CAQ en a perdu 16. Ils sont passés de 41 à 25 %. Ça fait vraiment mal. Selon Jean-Marc Léger, c'est un transfert du vote nationaliste. Puis ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Québec solidaire, 16 % des intentions de vote, suivi de près par le Parti libéral avec 15 %. 15 % c'est pas normal pour le Parti libéral, hein, qui ne se relève pas, hein, qui est au tapis, que, hein, de Dominique Anglade, que KO à terre, puis même ses partis, son ombre reste couché au tapis, puis le parti ne parvient pas à se relever, ou même... Ils parviennent à peine à exister, on va dire comme ça. Et le Parti conservateur, conspirateur... Le Parti conspirationniste du Québec d'Éric Duhaime est à 11 %. Puis, pour vrai, c'est fini, Éric. On sait qu'est-ce que tu vas faire. Là. Vas-y donc tout de suite là, avec les conservateurs fédéraux. Là, puis arrête de niaiser. Laisse ton parti de marde à des successeurs qui vont le ramener à 0,6 % là, tu sais, qui vont en refaire le parti marginal qu'il était et qu'il aurait toujours dû être. Ben, en tout cas, dans l'histoire récente, là, parce que dans l'histoire du Québec au complet, je veux dire, le Parti conservateur du Québec, c'est le premier parti à avoir exercé le pouvoir au Québec. Le premier ministre de l'histoire du Québec était conservateur. Mais le Parti conservateur de l'époque, puis celui d'aujourd'hui, c'est deux choses. Hein, des fois, on reprend des noms. Hein, c'est comme l'Union nationale de Duplessis qui a régné pendant comme 18 ans sur, sur le Québec. C'est pas la même chose que celui de... Jonathan Blanchet. Il a repris le nom, il a même repris le logo, mais ça se limite à ça. Là. C'est loin d'être un parti sérieux. Puis le Parti conservateur, c'est pas très sérieux non plus. Là. Quand tu sais, OK, Éric, il sait un petit peu, il connaît un petit peu, il est un petit peu sérieux, il sait un petit peu comment ça marche. Il est pas très bon, mais il connaît la politique quand même très bien. C'est ces candidats qui sont un petit peu... Il y a une couple de Joe Lindigo là-dedans, là, en tout cas, qui ressemble un peu. Donc, on regarde ça aller, puis Parti québécois qui continue à monter, puis s'ils étaient élus, hein, majoritaires, il a spécifié récemment, ben ils se lanceraient dans la encore un référendum pour essayer de convaincre les Québécois de réaliser la souveraineté du Québec. Mais s'il était minoritaire, il se garderait une petite gêne. Moi, je te dis, gars, existe le pouvoir 4 ans, là. Puis si tu as un bon taux de satisfaction, si tu le sens, là, deuxième mandat, tu peux t'essayer. Mais si tu arrives au premier mandat qu'un référendum, Ça se peut que tu retournes dans la cave. Mais il est bon. Je veux dire, il manque pas de vision. Il est dynamique, il est jeune. Il a rajeuni ce parti-là qui était devenu un parti de boomers frustrés de ne pas avoir réalisé leur projet, le projet de toute leur génération de faire de la souveraineté. Puis Colin est en train de réussir à rajeunir puis à rafraîchir, tiens, c'est ça que le mot que je cherchais, à rafraîchir le Parti québécois, le remettre au goût du jour. Fait que, ben, chapeau, Pierre Saint-Paul, Saint-Pierre, Paul Plamondon. Bon, okay, ça, c'est pas gentil. OK, hey, une nouvelle intéressante du côté des États-Unis. C'est intéressante, weird, bizarre. La mère d'un adolescent qui a perpétré une tuerie dans une école secondaire est reconnue coupable d'homicide involontaire. C'est pas elle qui a tiré, là. Mais c'est son fils, alors qu'il avait 15 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui reproche des manquements d'avoir... on lui reproche qu'elle aurait pu avoir l'œil un peu plus aiguisé ou prendre ses responsabilités de mère et être un peu plus vigilante quant au comportement de son fils. Qui laissait des indices, hein, qui s'en allait faire ça, là. On dit qu'elle aurait pu fouiller son sac à dos, demander à son fils où était le pistolet qu'il avait reçu en cadeau à 15 ans. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ça, on discute pas ça, là. Hein, on conteste pas si c'était une bonne idée de donner un gun à un enfant de 15 ans. Non. Ça, c'est correct, ça. On reproche à la mère de ne pas avoir fouillé dans le sac à dos ce matin-là, où elle aurait trouvé le gun et 50 balles pour aller avec. C'est un Sig Sauer de calibre 9 mm. C'est un cadeau de Noël anticipé que son papa avait fait à cet enfant troublé-là. Puis ce qui est peut-être le plus incriminant pour la mère, c'est que elle avait été convoquée, elle et son mari, les deux parents du petit meurtrier, avaient été convoqués à l'école secondaire où les enseignants avaient découvert des dessins alarmants, un dessin alarmant qui indiquait que le fils était après l'échapper. Et ça portait à croire qu'il avait goût de devenir violent, tu sais, de faire des gestes dangereux. Comme se pointer à l'école avec une arme. Puis ça, ben, ils ont ignoré... En fait, je ne sais pas s'ils ont ignoré ou non, mais regarde, on va le dire comme ça, là. Ils ont été convoqués à l'école. L'école a dit, votre fils a fait un dessin assez alarmant qui indique qu'il pourrait faire une tuerie, quelque chose de violent. On vous conseillerait de le faire suivre psychologiquement. Et comment ont réagi les parents? Allez, on va y acheter un gun, va être content! Ethan Crumley a été, c'est le petit garçon, a été jugé comme un adulte à l'âge de 15 ans et condamné en décembre dernier à perpétuité sans possibilité de libération anticipée par le tribunal d'Oakland. Il a tué deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans et blessé six autres élèves ainsi qu'un enseignant. Mais là, on blâme les parents. OK, je comprends que les parents, tu sais, ont vraiment pas fait leur job, là, mais... C'est n'importe quoi, sauf limiter les armes à feu. Ils vont inventer des lois, mais jamais qu'ils toucheront à l'accès aux armes à feu. Jamais ils vont limiter le droit d'acquérir des armes à feu. Jamais ils vont augmenter les restrictions, les embûches, comme, je sais pas, un profil psychologique, une analyse psychologique avant d'offrir la possibilité à quelqu'un d'avoir une arme à feu. C'est jamais les armes le problème. Puis les Américains l'admettront jamais. Pourquoi? Parce que ils vénèrent les armes comme ils vénèrent Jésus. Puis souvent, ils vénèrent les deux ensemble. Jésus avec des armes. Ils vont accuser le heavy metal, ils vont accuser les jeux vidéo, ils vont accuser toutes sortes d'affaires, ils vont trouver toutes sortes de raisons. Là, ils accusent les parents de ne pas avoir fouillé dans le sac à dos. Tout ça, ce sont des échappatoires pour ne pas adresser le vrai problème qui est l'accès illimité, non réglementé aux armes à feu et même à des armes à feu qui sont faits pour tuer du monde vite. Tu sais, un AR-15, là. Tu peux tuer 30 personnes, puis t'as juste à peser sur le piton, tu changes de chargeur, t'en tues 30 autres. Pas une arme de chasse, là. C'est pas une arme de défense non plus. D'ailleurs, il y a un humoriste, Jim Jeffries, qui parle de ça, les armes de défense. Tu sais, du monde va dire, « Ouais, mais moi, je suis propriétaire d'armes à feu, mais je suis responsable. » Puis mon arme à feu, mon morceau, pas une carabine pour la chasse. Non, non, non. Plus rien contre ça. Mais un pistolet, c'est pour la défense. OK, fait que... tes enfants peuvent le prendre, ou ben, tu sais, n'importe... Non, 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 non! Il est dans un coffre-fort scellé, barré. OK, ben de base, c'est pas une arme pour la défense. Parce que si des malfaiteurs qui rentrent chez vous pour te violer... En réalité, d'habitude, quand il y a des malfaiteurs rentrent chez vous, là, c'est pour voler ta TV et ton système de son. Là. Mais admettons, ils rentrent pour te violer puis te tuer, là. Puis toute ton arme est dans le coffre-fort. Là, je reprends, tu sais, je résume le sketch de l'humoriste Jim Jeffries qui a tellement raison. Comment c'est une arme de défense si c'est dans un coffre-fort? Le malfaiteur rentre. Oh, t'as une minute, toi. Oh, t'es pas rentré dans la bonne maison. Attends que j'ouvre mon coffre puis que je sorte mon gun. Pour que ce soit une arme de défense, il faut que ce soit à portée de la main. Puis si c'est à portée de la main, ben c'est dangereux puis tes enfants peuvent le prendre. Ou tu peux effiler un mauvais coton à un moment donné puis l'utiliser contre toi, contre ta famille, comme ça arrive souvent. Mais il faudrait jamais restreindre les armes à feu, jamais restreindre l'acquisition, la possession, jamais faire de plus de vérifications. Il faudrait pas rajouter de mesures de sécurité envers les armes. Il faudrait pas bannir les armes longues qui tirent 30 balles. On aime mieux accuser les parents, les jeux vidéo, la musique heavy metal, n'importe quoi! Sauf le vrai problème qui est l'accès aux armes à feu, qu'on laisse acheté par n'importe qui. Je me rappelle qu'il y a des journalistes qui ont fait le test. Ils ont envoyé un enfant de 13 ans. 13 ans! Dans un gun show. Les gun shows, là, c'est un peu genre un Comic-Con ou bien une convention Star Trek. Sauf qu'à la place, c'est des maniaques qui trippent ces armes à feu. Là. T'sais, des vrais fans d'armes à feu. Puis là, c'est gros comme un centre d'achat. Puis c'est juste des guns, des guns, des guns. Puis là, t'as des discours de la NRA. Des gun nuts qui se masturbent en regardant des revues d'armes à feu. Là. Les armes à feu, là, moi, aux États-Unis, je me demande si c'est une orientation sexuelle ou un culte religieux ou les deux, mais c'est quelque chose dans ce genre-là aux États-Unis. Là. C'est pas juste un outil. C'est pas vrai, là. C'est un objet de culte. Faut pas restreindre le deuxième amendement, Frank. Ouais. C'est parce que, tu sais, moi, quand on me dit, on peut pas changer ça parce que c'est la Constitution, puis c'est un amendement de la Constitution. Moi, mais c'est quoi un amendement, maudit cave? C'est pour modifier la Constitution! Ça veut dire que ça se change! C'est pas écrit du doigt de Dieu dans la pierre, quoique ces Mongols-là souvent le pensent, que c'est inspiré de Dieu, que les pères fondateurs étaient inspirés de Dieu. Ouais, sauf que la plus bonne gang des. Une bonne partie des pères fondateurs étaient soit athées ou à tout le moins en faveur d'une séparation nette entre la religion et l'État. Mais ça, faut pas que t'en parles aux conservateurs américains, parce que cette réalité-là, ils vont la nier. Ils vivent dans ce déni-là, puis dans l'illusion, le même type d'illusion qui leur fait penser que leur pays est le préféré de Jésus. Puis que si Jésus était là, il voterait conservateur parce qu'il est en faveur de des guns, puis il est contre l'avortement. Qu'est-ce que vous me dites là? Oh, les mousquets. Ah oh, oui, ouais, c'est ça. C'est même pas le Far West. Ça date d'avant le Far West. Le deuxième amendement, c'était parce que on venait de faire une guerre d'indépendance contre un empire britannique qui aurait pu essayer de reconquérir l'Amérique pour la ramener au sein de l'Empire britannique. Puis l'armée l'armée américaine, c'était beaucoup des citoyens, tu sais. Puis c'était des mousquets, là. Pow! Tu serais tout le temps à côté, là. On recommence. La petite poudre. Après ça, on met la petite poudre. Pow! C'est pas la même chose que un R15. Un R15, c'est pow, mau, 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 30 fois. Chargeur. Mort, 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 mort. Hey, les caves! Et où, là? Avez-vous vraiment peur que l'Empire britannique s'en vienne vraiment vous reconquérir à nouveau, là? C'est ce que ça nécessite, le deuxième amendement encore? Oh, we're here to conquer you! Ah! Papa! Mais non. Non, non, les armes... En fait, cette nation-là qui a été bâtie sur la guerre essentiellement venait pas tant les armes que la violence. Trippe sur la guerre. Il trippe sur la guerre. Il aime ça. Puis d'ailleurs, quand tu fais un vox pop, il y en a plusieurs qui l'ont fait, c'est... Tu demandes aux gens dans la rue, « Pensez-vous que les États-Unis devraient envahir le Canada? » « Oui! » « Pensez-vous que les États-Unis devraient envahir le Mexique? » « Oui! » « Pensez-vous que les États-Unis devraient envahir le Paraguay? » « Oui! » Pensez-vous que les États-Unis devraient envahir le Wakanda? Oui! Ils réfléchissent même pas. Ouais, ouais, go, go! C'est nous autres les plus forts! Gun, pow! Puis on écoute Tucker Carlson, hein? Ils vont venir nous envahir bientôt pour nous sauver de la dictature communiste du gouvernement canadien. Ah, ce pays-là est en train de s'enfoncer. Épouvantable. Puis s'ils réalisent Donald Trump, ça va être très dangereux. Pour la planète au complet. Pendant que nous autres, on regardait des Kalinours, puis Félix et Ciboulette, eux autres, c'était les G.I. Joe, les Transformers. La violence est tellement normalisée aux États-Unis qu'il ne faut pas se surprendre de ce culte des armes-là. Il ne faut pas se surprendre du nombre de tueries qu'il y a. De toutes les guerres injustifiées qu'il déclenche. On cherche Tucker en Russie. Ouais, hein, Tucker est supposé aller jaser avec le président Poutine. Oh, que ça serait triste qu'il arrive quelque chose. Tu sais, mettons, là, cet imbécile-là, là, il fait une gaffe, puis il dit quelque chose pendant l'entrevue, ou bien qui déplaît à Poutine, puis il disparaît. Ça serait dommage. OK, c'est pas fin. Mais je verserai pas de larmes, ça c'est certain. Sur ce, je vous dis à demain pour le dernier Express de la semaine. Rendez-vous à 12:30. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media. Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.